Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. On va s'arrêter là. C'est un très beau texte. C'est un très beau texte. Question, pourquoi est-ce que vous suivez le Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi? Eh bien, on peut répondre, voilà, en disant, mais sa vie terrestre, c'était un merveilleux exemple et de ce que doit être un homme, de ce que doit être un humain, et voilà, pourquoi je veux suivre Jésus, parce que je veux lui ressembler, parce que j'aspire à cette pureté, à cette beauté, à cette sainteté, à cette efficacité, et tout. Bien. La Bible nous invite à ressembler à Jésus, et parce qu'elle nous invite à ressembler à Jésus, ça nous donne un grand espoir. Quel espoir? L'espoir de se dire, bon, c'est dans mon pouvoir. Si elle m'invite à ressembler à Jésus, c'est que je peux ressembler à Jésus. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un pouvoir donc que Dieu nous a donné par l'Esprit qui vit en nous. C'est une possibilité, et c'est à nous de prendre cette possibilité. Mais est-ce que c'est une fin? Le salut qu'il nous offre, c'est une grande preuve de son amour et l'admission, notre admission au ciel, ça nous donne une grande paix, ça nous donne une paix profonde, mais l'admission au ciel, notre admission, mon admission au ciel, est-ce que c'est une fin? Est-ce que c'est une fin? Alors vous avez des gens qui veulent absolument agrandir l'Église en prêchant. Alors ils prêchent, ils distribuent des tracts, ils font toutes sortes de choses pour agrandir l'Église et tout ça. Chercher à donner à l'Église aussi ce que les imposteurs religieux lui ont volé, tout ça. C'est bien, c'est hautement saint, c'est sacré, c'est bien. Mais est-ce que le fait que son Église soit sans tâche, est-ce que c'est une fin? Tout amener sous le gouvernement du royaume de Dieu, est-ce que c'est très important? Mais est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que toutes ces choses-là, on peut dire, mais non, ce n'est pas la fin, ce n'est pas une fin, c'est le moyen, mes frères et sœurs. Ce sont les moyens par lesquels Dieu réalise son véritable objectif. Son véritable objectif, ce n'est pas que vous soyez saint. Son véritable objectif, ce n'est pas que l'Église soit la plus grande. Son véritable objectif, c'est... L'objectif de Dieu est bien plus élevé que tout ça. Beaucoup plus élevé. Mais chacun des éléments que je viens de citer, eh ben, ça a son importance dans ce plan. C'est vrai. Et personne n'est qualifié pour dire si c'est le point numéro 1 ou le point numéro 2 qui est le plus important. Tout a son importance dans ce plan, dans cet objectif que Dieu a. Le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir sans toutes ces choses. Dieu, mes frères et sœurs, s'est assuré une famille. Et le texte de Paul parle de ça, ce texte qu'on vient de lire là. Lui, le Père, il est l'auteur de ce plan. Lui, le Père. Et son œuvre, eh bien, c'est de nous avoir sélectionnés pour être de sa famille. Il nous a élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Cela signifie qu'avant de créer le monde, avant de créer l'univers dans la matière, attention, écoutez-moi bien, il avait créé toutes ces choses, mais en esprit. Elles existaient. Tout cela, ça a déjà été fait dans la création spirituelle. Et maintenant, tout se fait dans la création, dans le temps et l'espace, dans la matière. Mais le plan a déjà été fait et il a été accompli dans la création spirituelle. La première création que Dieu a faite, elle était spirituelle. Avant de la matérialiser, elle était spirituelle. Je voudrais qu'on fasse une lecture dans Apocalypse 13, 8, dans la version Scofield ou la version Second, comme vous voulez. Je prends là ma version Scofield et je vous lis Apocalypse 13, 8. Alors, peut-être que vous avez déjà trouvé le verset, je vous le lis. Il est question là des habitants de la terre qui adorent la bête. Il est dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, qui ça? Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Ça, c'est Scofield. Ça, c'est la seconde. La Chouraki, maintenant. Qu'est-ce qu'elle dit, la Chouraki? connaissez tous la Bible Chouraki. Si vous ne la connaissez pas, vous avez tort. Voilà ce qu'elle dit. Tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, donc la bête, elle dont le nom n'a pas été écrit sur le volume de la vie, sur le livre, le volume de la vie de l'agneau égorgé depuis la fondation du monde. Et puis, la version pentecôtiste, Esprit et vie, version de 1991, voilà le texte. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, eux, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Tout le monde dit Amen. Ben moi non, parce que ces trois textes-là, il y a deux choses complètement différentes. Complètement différentes. Il faut faire attention quand on lit, il faut avoir plusieurs versions. Toutes les versions disent que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, sauf celle des pentecôtistes. Celle des pentecôtistes dit que c'est nous qui avons été élus et inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Nous avons été inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, mais pas qui nous avons été inscrits dans le livre de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Ah bon ? Je croyais que ça fait à peu près 2000 ans qu'il a été immolé. Non, il a été immolé avant la fondation du monde, dans le monde que Dieu avait créé en esprit, un monde spirituel. Dieu a tout créé spirituellement avant de le créer matériellement. Et ce qui s'est produit dans le spirituel maintenant est la répétition dans la matière de la chose. Les commentaires disent en général que ce texte n'est pas très clair. Ben oui, un peu comme pour les Nicolaïtes, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Hein? Allons. Des scientifiques, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Non, ils ne veulent pas dire la vérité parce qu'ils veulent pouvoir continuer leur petite magouille religieuse. Les pentecôtistes, eux, ils commentent en disant que la mort de Jésus a été décrétée au début de la création du monde. Ouais, ben c'est complètement... Alors attendez, Michel, la parole de Dieu, tu n'as pas de sortir de la parole de Dieu. Ah oui, laquelle alors? Moi, on m'a dit c'est la seconde. Hein? Les pentecôtistes, quand j'ai commencé là, avec les gitans. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Voilà. Et ben moi, je choisis que c'est ça que je crois. Vous voulez faire un autre choix? Libre à vous. Nous avons deux paroles de Dieu différentes, là. Il y en a une qui dit que Jésus a été immolé avant la fondation du monde, dès la fondation du monde, ou jamais avant la fondation du monde. Qu'est-ce qu'on fait à faire avec tout ça? Dans l'esprit, mes frères et sœurs, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. L'agneau a été immolé dans la création spirituelle avant la création temporelle, avant la création du monde matériel. Et nous étions en lui avant la création du monde, comme on a lu dans Éphésiens 1, 4. Nous étions avant la fondation du monde, et en lui, en qui, en Christ, nous avons été élus, parce que nous étions en Christ quand il a été immolé avant la fondation du monde. Quand il a été immolé, dans la création spirituelle. Et puis, Dieu a rendu tout cela matériel, temporel. Tout cela a pris forme dans la matière, là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons deux récits de la création. Le premier récit de la création, c'est la création spirituelle. Et le deuxième récit, c'est celui de la création matérielle. Lisez. C'est très différent les deux versions. Il y a deux créations. Tout a été sélectionné avant la création du monde matériel. Quand je dis que tout a été sélectionné, ça veut dire que tout a été élu. Il y en a qui ont été élus pour être avec Christ, du côté de Christ, et puis d'autres qui ont été élus pour d'autres choses. Il a tout fait dans un but, même le méchant pour le jour du malheur. Le plan de Dieu, il se déroule aujourd'hui sans se détourner d'un iota. Le plan de Dieu se déroule absolument fidèlement tel qu'il l'a été écrit. Et je crois ça depuis des années. Et je découvre que les Esséniens le croyaient aussi. Les Esséniens, c'était une secte, d'accord. Beaucoup pensent que Jean-Baptiste faisait partie de cette secte. L'esprit de prophétie dit que nous avons une existence qui a précédé celle que nous avons dans la mortalité. Nous sommes dans la mortalité aujourd'hui, mais avant cela, nous étions, et là, à ce moment-là, nous avons été élus en Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. En ce moment-là, en ce moment même, il y a deux mondes. Il y a le monde de l'esprit, il existe toujours, et le monde de la matière. Comment se fait-il que nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes? Nous sommes assis en Jésus-Christ dans la création spirituelle. Nous y sommes, parce qu'il n'y a pas de temps dans le monde spirituel. Vous pensez que vous allez bientôt mourir ou être enlevé, que vous allez vous asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ? Oui, ça c'est bon pour la matière. Mais en esprit, vous l'êtes déjà. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. N'est-ce pas écrit dans Éphésiens? Nous y sommes déjà. Quand nous mourrons, nos esprits qui sont enfermés dans la matière, nos esprits, à nous les élus, nos esprits retourneront à Dieu d'où ils sont venus. Ecclésiaste 12, 7. Nous avons un passé éternel, un passé spirituel. Quand je dis passé, ça veut dire une existence dans le monde de l'esprit. Parce qu'oublier peut-être le mot passé, ça fait encore partie du temps tout ça. Mais ça fait partie du passé par rapport à notre aujourd'hui matériel, temporel. Nous avons vu que l'auteur, c'est Dieu, il est le Père, que l'auteur, il a fait une action, celle de nous sélectionner, de nous élire en Jésus-Christ immolé avant la création du monde. Pour quel but? Pour lui-même. Pour son plaisir, pour sa satisfaction. Où ça? Devant lui, pour qu'il ait une satisfaction. Quelque chose qui soit devant lui et qui le satisfasse. Voilà ce que nous venons de lire aussi dans Éphésiens chapitre 1. Avant de créer tout ça dans la matière, il l'a créé en esprit, en lui-même, et puis il a créé, selon sa providence, avec un gouvernement, avec une rédemption, avec la sanctification, et finalement la révélation de son point de vue éternel, il l'a créé dans la matière. Bien sûr que Dieu est créateur, mais avant d'être créateur, il est d'abord votre père. Il est un père, il n'est pas un créateur comme Robert Rossen est le créateur de telle et telle pièce ou machin. Il est un père, il est votre père. Il est exactement d'où vous venez et il est exactement où vous allez, où vous retournez. Et Dieu, dans sa providence, il ne se contente pas de pourvoir à vos besoins, il ne se contente pas de pourvoir aux besoins de sa famille en tant que père, mais il pourvoit à son besoin. Dieu a des besoins. Pour son plaisir, il avait un besoin de plaisir. Son gouvernement, ce n'est pas son but final. Dieu n'est pas en manque, en crise, en comment on pourrait dire? Il n'est pas en train de se dire, oh là là, c'est bête, j'ai personne à commander, je m'embête, j'aimerais bien avoir des petits machins que je peux commander. Il n'est pas en mal d'autorité. Il ne cherche pas des sujets sur lesquels il va pouvoir dominer. Non, il est notre père. Et étant notre père, il est à sa place dans la famille. Nous sommes une famille, dans notre famille, il est le Père. Et plus nous mûrissons dans la création matérielle, temporelle, plus nous aimons son autorité réelle, paternelle. Frères et sœurs, je regardais le petit Titi, mon petit-fils, à midi. Sa maman lui disait, mange mon chéri. Il prenait sa cuillère et il se barbouillait de la sauce sur son nez, tout. Et il regardait rigolant, tout. Il veut rester un bébé. On lui disait, mais grand, il faut manger si tu veux grandir. Hein. Il n'a vraiment pas envie de grandir, hein, à comprendre. Il mettait tout par terre, il s'amusait avec la nourriture. Pourquoi il veut rester un bébé? Parce que c'est beaucoup plus confortable que d'être quelqu'un qui a des responsabilités. Ça, on appelle ça le complexe de Peter Pan. Et c'est vrai, hein, vouloir rester petit. Le bébé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de savoir jusqu'où il va pouvoir aller pour résister à l'autorité de ses parents sans être puni. Ben c'est ça, c'est le boulot des bébés. Jusqu'à ce que la maman finalement lui dise, écoute, maintenant tu manges. Ça change là. Mais combien de temps ça va durer jusqu'à ce qu'elle hausse le ton ou qu'elle fasse des gros yeux ou... Voilà. Vous comprenez mes frères et sœurs? Ben voilà, ça c'est le bébé. Un adulte spirituel, lui, il est plutôt rassuré. d'avoir en dessus de lui une autorité parentale. Je ne dis pas que Élise et Lucas sont des adultes, mais déjà maintenant, le fait d'avoir un papa et une maman qui commandent, qui dirigent, qui organisent et tout, ça les rassure. Ils ne se disent pas « Oh, c'est embêtant, mon papa et ma maman, c'est embêtant, voilà. » Non, non, ce n'est pas embêtant. C'est grâce à papa et maman qu'on mange, c'est grâce à papa et maman qu'on a des habits propres, c'est grâce à papa et maman qu'on a... Oui ou non ? C'est formidable, et on est content d'avoir... Et puis cette autorité qui nous rassure, ne nous permet pas de faire n'importe quoi, parce qu'il nous aime, on le sait, on en a conscience. Donc c'est bon, c'est bien, on en a conscience. Plus on grandit, plus on en a conscience. La sanctification, cette mise à part, c'est Dieu qui l'a fait dans notre passé éternel, donc dans sa première création en esprit. Et ici-bas, c'est nous qui matérialisons cela, cette mise à part, cette sanctification, dans nos actions. Posé dans la matière, posé dans le temps, dans l'espace. On va lire ce que les Esséniens... Ah, j'ai oublié de le prendre, zut. Je voulais vous lire ce que les Esséniens pensent de ça. Ben, je vous le lirai une autre fois. Je vous lirai une autre fois. C'est extraordinaire. Les Esséniens croient la même chose que nous autres ici au sanctuary à ce sujet-là. Ça fait longtemps que je vous prêche ces choses-là. À peu près, il y a des choses nouvelles que je vous ai dit ce soir. Mais pour la plupart, c'est des choses que je vous ai déjà dites. Eh bien, les Esséniens croyaient ces choses-là. Ils croient aussi qu'il y a deux esprits majeurs qui ont été créés dès le départ. Un qui est saint, qui vient d'une source de lumière, et l'autre qui est un ange de ténèbres, qui vient donc et qui est mal. La Bible ne nous dit pas que Satan est un ange déchu. La Bible nous dit qu'il a été mauvais dès le commencement. Jean 8, 44, et pour ceux qui doutent, ben je vais vous lire Jean 8, 44. Alors, Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. C'est sa nature. Il a été créé comme ça. Ce n'était pas un ange qui est déchu. Il y a des anges déchus, mais pas Satan. Il a été créé comme ça, pour une raison, pour un but. Dieu connaît tout et son plan s'accomplit. De quel côté voulez-vous être ayant conscience de la profondeur de ces choses ? Ici-bas, nous vivons pour faire connaître, c'est-à-dire pour révéler, pour manifester dans la matière, dans le temps, dans l'espace, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, votre vie... elle a une longueur. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne sait pas quelle longueur elle a. Hein, j'écoutais, je lisais plutôt Alex Chateau qui écrivait sur Facebook, il disait « Je vous souhaite une bonne année, il va se passer des tas de choses, c'est peut-être cette année que je vais mourir. » Eh ben oui, c'est peut-être cette année qu'il va mourir, c'est peut-être cette année que je vais mourir. On ne sait pas. Peut-être cette année que vous allez mourir, c'est peut-être ce soir qu'on va mourir. Notre vie, elle a une longueur. Alors, quand on voit comment on est dans cette espèce d'inconnu, qu'est-ce qu'il nous faut ? Eh bien, il nous faut maintenant vivre dans l'éternel, c'est-à-dire dans cette conscience de l'éternel, ce qui signifie comprendre le point de vue de Dieu des choses, pas jouer avec le temps. Et puis, nous avons à donner aussi à notre vie une épaisseur, une épaisseur. Voyez comment Jésus, lui, il s'est donné. Eh bien, à notre tour de faire tout pour que son plan s'accomplisse. Il a tout fait jusqu'à pouvoir dire tout est accompli. Et maintenant, là, nous sommes sur terre, dans la matière, et nous avons à donner de l'épaisseur à notre vie, à montrer que nous faisons tout pour que ce plan merveilleux que Dieu a décidé s'accomplisse. Ça montre qui nous sommes si nous le faisons. Nous avons été doués d'une capacité de mesurer. Je me rappelle mon frère, quand il était petit, il mesurait tout le monde. Et lui, il était grand, lui, il était petit, lui, il était plus grand que le grand. Et alors, on s'amusait, on découpait, vous savez, dans les magazines de mode, on découpait les bonnes femmes. Alors, tous les corps, toutes les jambes, puis alors, on faisait des grands corps avec des grandes jambes, puis une petite tête tout en-dessus, puis on collait, puis on les appelait les grands Guillaume, on les collait sur l'armoire, on disait, ah, j'en ai fait une plus grande que toi, puis on mesurait. Tout petit déjà, on a cette capacité de mesurer. Votre consécration, c'est plus que d'adhérer à une cause, c'est se donner à une personne. Est-ce que vous avez mesuré ça? L'importance de cela, se donner à une personne, à votre Créateur, à votre Père, à celui sans qui vous n'existeriez même pas. C'est ça votre consécration. Il y a aussi une profondeur. Et cette profondeur, elle est déterminée par la manière dont vous vivez pour lui. On est dans la matière, dans les trois dimensions. Puis une dimension qui est autre, c'est la dimension de la raison. Pour quelle raison vivez-vous? Si vous dormez, c'est-à-dire si vous perdez de vue la réalité que Dieu est votre Père, c'est quand on dort, on voit pas la réalité, on dort. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir une raison absolue, une détermination absolue. Vous ne pouvez pas, vous dormez. C'est pourquoi il faut que nous nous tenions éveillés pour comprendre pourquoi est-ce qu'il a créé tout ça. Pourquoi il m'a créé? Pourquoi est-ce qu'il nous a mis de côté, à part, pour être de sa famille? Pour quelle raison? Mes frères et sœurs, il nous faut une vision lucide. Achète de moi un collier pour oindre tes yeux, pour voir clair. Il faut une vision lucide. Il faut avoir la vision lucide des choses selon son point de vue à lui. Il vous a créé pour son bon plaisir. Est-ce que vous lui faites plaisir? Est-ce que vous êtes là pour son plaisir? Ou est-ce que quand il vous voit, il dit, ah ben, je suis bien content d'avoir un bébé. Il est vraiment, ça fait longtemps que c'est un bébé. Imaginez Francis qui se comporte comme Titi. Il prendrait la crème au chocolat, il se barbouillerait la figure avec. Hein? À 45 ans, c'est pas bien ça. Mais il y a des gens spirituels depuis 45 ans qui font ça. Ils se mettent encore du Nutella sur la tronche. Et puis, gna 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 gna. Ben oui, puis c'est. Alors là, ça fait plus plaisir. Pour le moment, ça nous fait un peu rigoler quand on voit Titi qui se met du Nutella dans les cheveux. Hein, c'est vrai, mais il est tout petit. Mais si c'était Francis, on dirait, on ne l'invite plus. Hein. Pourquoi vous a-t-il créé? Pourquoi vous a-t-il mis de côté pour son bon plaisir? Faites-lui plaisir. Il nous donne. Il faut que nous ayons. Il veut nous la donner, mais il faut que nous la prenions, cette vision complète par rapport. Qu'on les choses, qu'on les détaille avec l'ensemble. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Les choses, les unes à côté des autres, c'est que des détails qui font l'ensemble. Mais il faut encore avoir une vision élargie, pas se dire « Ah, oh, c'est encore un lundi. » Et puis vivre ce lundi comme un lundi. Et puis, bon, vivement qu'on se couche. Et puis quoi, des machins, mais terre à terre, râler pas crête. Non, il faut voir savoir compter nos jours, les utiliser correctement, faire plaisir à notre Dieu, savoir qu'on est là pour son bon plaisir. On peut être là pour son plaisir, aussi pour son bon plaisir. Nous le pouvons. Nous le pouvons parce que nous sommes nés de l'Esprit. En cela, nous pouvons manipuler la création matérielle que nous sommes, qui ne veut pas toujours se soumettre. Nous pouvons la manipuler par notre esprit qui est en communion avec le Saint-Esprit. Nous pouvons manipuler notre esprit, notre chair. Nous pouvons la manipuler par l'Esprit qui est en nous. Nous pouvons le faire. Chose impossible aux irrégénérés. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent rien comprendre. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. C'est la Bible qui dit ça. Ils ne peuvent rien comprendre. C'est même pas qu'ils ne veulent pas défendre. Ils font exprès, ils comprennent rien. Non, ils ne peuvent pas. C'est écrit. L'homme naturel, ou dans une autre version que j'aime plus, c'est l'homme animal ne peut pas. Les animaux ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Mais pas vous. Vous pouvez manipuler votre chair. Faire cela pour qu'elle rende gloire à Dieu. Alors écoutez, parce que vous en avez le pouvoir, écoutez les chuchotements de l'Esprit, il va vous dévoiler son plan pour que vous agissiez consciemment, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive cette année, il peut arriver des choses terribles, hein, on espère toujours le meilleur, mais bon, il peut arriver des choses terribles. Eh bien, il faut que vous écoutiez, que vous vous habituiez à écouter les chuchotements de l'Esprit pour que vous soyez quelqu'un de conscient quand les choses vont arriver, parce que les choses vont arriver. Toutes ces choses qui vont arriver les unes après les autres sont des détails qui forment un ensemble. Il faut que vous compreniez toutes ces choses-là, spirituellement. Pour avoir cette vision lucide, Il ne faut pas dormir. Mon frère Dominique, l'autre jour, il m'a raconté, il a eu, je crois que c'était un songe ou une vision, il a compris quelque chose au sujet des vierges folles, des vierges sages qui dormaient parce qu'elles étaient fatiguées. Fatiguées de quoi? Fatiguées des prédications peut-être, fatiguées de se lever tous les matins, fatiguées du train-train, fatiguées de, oh, toujours pareil, fatiguées de, oh là là, je suis en train de devenir vieux, puis ça n'a pas changé, puis fatiguées, puis fatiguées, fatiguées, puis elles dorment. Non, 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 il faut prendre des vitamines spirituelles. Où ça? Dans la prière. Dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Dans la lecture de la parole de Dieu. Hein, cet après-midi, j'ai reçu des Mormons à la maison. Et puis, on était là, et Francis en a parlé. Puis, on a lu un verset, que, je ne me rappelle plus exactement comment ça dit, mais ça veut dire, faites provision des bonnes paroles de Dieu dans votre cœur afin de pouvoir vous en servir quand le moment se trouvera, vous en aurez l'utilité. C'est quelque chose de très beau. Faites une provision. N'attendez pas de vous trouver devant une difficulté pour tout d'un coup, vite, vite, aller chercher dans la prière ou vite, vite, aller chercher dans la parole de Dieu. Non, emmagasinez tout ça en vous. Prenez tout ça en vous, que vous ayez quelque chose de solide en vous. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à ne pas nous glisser dans une vie de chrétien médiocre. Il faut que nous élevions nos pensées jusqu'au Seigneur dans le monde de l'Esprit, parce qu'il existe. Et nous y existons aussi. Nous sommes dans ce monde de l'Esprit. Et j'espère que le Michel Jonton qui est dans le monde de l'Esprit est fier du Michel Jonton qui est sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de nous aider à comprendre tout cela, à dépasser nos petites idées, nos petites croyances, nos petits machins, pour qu'on comprenne, qu'on ait une vision lucide de ce que tu attends de nous et que nous puissions rentrer dans ce plan consciemment. De toute façon, il s'accomplira, mais nous voulons être conscients, nous voulons avoir les yeux ouverts et bien comprendre les choses afin de glorifier ton nom, pas seulement subir les choses qui arrivent, mais aussi les comprendre et être toujours dans la gratitude. Merci Seigneur Jésus. Amen.